Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, l'accueil diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La communauté de politique étrangère d'Indonésie a déclaré que le rôle des figures religieuses pour surmonter les problèmes climatiques. Le président de KPI apprécie la qualité des émissions de radio et de télévision indonésiennes. Selon Sri Mulyani, la victoire de Trump pourrait avoir un impact sur les prix mondiaux du pétrole. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le fondateur et président de la Communauté de politique étrangère d'Indonésie, ou FPCI, M. Dino Patijalal, a déclaré que l'Indonésie devait formuler des solutions climatiques conformes aux valeurs islamiques. Il a transmis lors de la présentation des résultats de l'enquête de la Communauté de politique étrangère d'Indonésie, vendredi 8 novembre 2024 à Jakarta.
The result of this is very interesting because it's something that the government...
Les résultats sont très intéressants car les gouvernements et les décideurs politiques doivent savoir qu'ils accepteront des objectifs climatiques conformes aux enseignements islamiques. Cependant, il existe de nombreux obstacles, notamment pour traduire cela en une action concrète de réduction des émissions. La communauté des politiques étrangères d'Indonésie explique que l'enquête nationale sur le climat met en évidence le rôle des personnalités islamiques et des communautés musulmanes dans la lutte contre le changement climatique. Cette recherche combine des approches quantitatives et qualitatives, vise à comprendre comment les enseignements islamiques peuvent servir de base pour encourager l'action climatique en Indonésie. Avec les résultats de cette enquête, Dino Patijalal espère que le gouvernement et les autres parties prenantes pourront travailler ensemble pour encourager une action réelle conforme aux valeurs islamiques pour atteindre des objectifs climatiques plus ambitieux. La Commission indonésienne de radiodiffusion, ou KPI, a décerné le prix KPI 2024 à Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta vendredi pour apprécier la qualité des émissions de radio et de télévision indonésienne. Président du KPI central, Ubaidillah, dans son discours a apprécié les programmes de télévision et de radio soumis en tant que nominés pour le prix. Selon Ubaidillah, tous les programmes nominés sont de bonne qualité.
Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada peserta anugerah KPI 2024.
Permettez-moi de remercier les participants du prix KPI 2024. Nous avons reçu plus de 400 programmes diffusés par les institutions de radiodiffusion participantes. Et après avoir passé par le processus de jugement, les messieurs et madame présents ont été sélectionnés comme nominés. Nous sommes pleinement conscients de la qualité des programmes diffusés que nous recevons. Et c'est également la preuve de la façon dont la télévision et la radio continuent de croître de manière créative et innovante, tout en présentant les meilleurs programmes pour divertir et éduquer le public. Ubaidillah est optimiste que les programmes de radio et de télévision de qualité auront un impact positif sur le développement de la nation et deviendront un pont pour réaliser la vision d'une Indonésie dorée 2045. Au milieu des défis technologiques qui ont un impact sur les perturbations, il espère que les institutions de radiodiffusion en Indonésie continueront d'exister au service de la communauté. Lors du prix KPI 2024, l'institution de radiodiffusion publique a remporté presque toutes les catégories de contenu radio fournis par KPI. Selon Sri Mulyani, la victoire de Trump pourrait avoir un impact sur les prix mondiaux du pétrole. Le ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine de 2024 pourrait avoir un impact significatif sur les prix mondiaux du pétrole. Sri Mulyani, lors d'une conférence de presse sur le budget national indonésien à Jakarta, vendredi 11 août, a déclaré que cela était dû au fait que l'orientation de la politique énergétique de Trump du Parti républicain, différente de celle du président Joe Biden du Parti démocrate, pourrait changer les tendances mondiales liées aux questions de changement climatique et énergétique. Sri Mulyani a déclaré que les politiques de l'administration Trump au cours de la période précédente avaient tendance à être moins favorables à la réduction des émissions de carbone dans le secteur de l'énergie, ce qui constitue une préoccupation importante dans la question du changement climatique. Auparavant, Trump avait proposé d'augmenter la production pétrolière nationale pour réduire les prix internationaux du pétrole. Outre l'impact sur les prix du pétrole, Sri Mulyani a également révélé que la victoire Trump entraînerait d'autres changements de politique qui pourraient provoquer une réaction rapide du marché. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le Liban condamne l'attaque de drones israéliens sur la ville de Sidon qui a tué 3 civils et blessé plusieurs soldats libanais ainsi que des troupes de maintien de la paix des Nations Unies servant au Liban ou de la FINUL. Il considère l'attaque israélienne comme un crime de guerre. 5 casques bleus blessés dans une attaque de drone près d'un poste de contrôle militaire à Sidon au sud de Liban. L'armée libanaise a confirmé que l'attaque a été menée par un drone israélien visant un véhicule tuant 3 personnes à l'intérieur et blessant 3 de ses soldats stationnés au poste d'inspection militaire à proximité. Le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il condamnait fermement l'attaque israélienne et a appelé la communauté internationale à condamner l'attaque et à demander des comptes à Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas a félicité par téléphone Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. Abbas s'est déclaré prêt à travailler ensemble pour parvenir à la paix dans la bande de Gaza. Rapporté par AFP samedi 9 novembre, la victoire de Trump s'est produite alors que le Moyen-Orient était en pleine tourmente après le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023. Déclenché par les attaques contre Israël du groupe militant palestinien Hamas. Le bureau du président Abbas a mentionné dans un communiqué sa volonté de travailler ensemble avec le président Trump pour réaliser une paix juste et globale basée sur la légitimité internationale. Il a été dit que Trump avait également assuré à Abbas qu'il travaillerait pour mettre fin à la guerre. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique. Cette fois, nous allons vous présenter l'ambassade d'Indonésie à Madrid distribue de l'aide aux citoyens indonésiens touchés par les inondations à Valence. L'ambassade de la République d'Indonésie à Madrid, l'Espagne, collabore avec les citoyens indonésiens pour distribuer une assistance logistique à 8 citoyens indonésiens à Sedavi, Valence, qui ont été touchés par l'inondation. L'ambassadeur d'Indonésie en Espagne, M. Muhammad Najib, à travers une déclaration officielle mercredi, a déclaré que la protection des citoyens indonésiens en Espagne est l'un des principaux objectifs et la tâche principale de l'ambassade d'Indonésie à Madrid. L'assistance logistique consiste de la nourriture, des vêtements sous forme de pyjama et de chaussettes, d'oreillers et de couvertures, d'articles de toilette, d'outils et de matériel de nettoyage, ainsi que de cuisinières à gaz qui sont distribuées par le gouvernement indonésien et des dons de citoyens indonésiens vivant dans la région de Valence. L'ambassadeur Najib a également exprimé sa plus haute appréciation pour la collaboration active et la solidarité des citoyens indonésiens pour aider leurs citoyens indonésiens vivant en Espagne. Des pluies extrêmes le 29 octobre 2024 ont provoqué des crues soudaines de toute l'est de l'Espagne. Au 6 novembre 2024, la catastrophe a fait plus de 200 morts et 89 disparus, qui a balayé les zones urbaines et les zones de basse altitude, surtout dans la région de Valence, Castellón et Alicante. Actuellement, l'accès à un certain nombre de zones touchées par les inondations reste limité. L'accès qui ne prend normalement que 15 minutes depuis le centre-ville de Valence jusqu'à la zone où vivent les citoyens indonésiens touchés ne peut être atteint par l'ambassade d'Indonésie qu'en une heure. L'ambassade d'Indonésie à Madrid exprime sa condoléance au gouvernement espagnol pour la catastrophe qui frappe actuellement et continuera d'accorder une attention particulière aux citoyens indonésiens vivant dans et autour des zones touchées. Selon les données de l'ambassade d'Indonésie à Madrid, il y a environ 1800 citoyens indonésiens vivant en Espagne. Environ 200 d'entre eux vivent à Valence et dans ses environs. Compte tenu de la catastrophe qui est actuellement encore en phase de traitement, l'ambassade d'Indonésie demande aux citoyens indonésiens vivant dans les environs de rester vigilants et aux touristes indonésiens d'éviter les zones touchées. L'ambassade d'Indonésie espère qu'en cas d'urgence et s'ils sont touchés par une catastrophe, les citoyens indonésiens à Valence contacteront la hotline de l'ambassade d'Indonésie à Madrid au plus 34 619 31 2380. Chers amis, c'était la clé diplomatique de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 9 novembre 1921. Einstein reçoit le prix Nobel de physique. Le 9 novembre 1921, Albert Einstein reçoit le prix Nobel de physique, citant Nobelprize.org, le prix Nobel de physique de 1921 a été décerné à Albert Einstein pour ses services rendus à la physique théorique, notamment pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique, mais le prix Nobel a été décerné un an plus tard. Le comité Nobel de physique a décidé qu'aucun des nominés de 1921 qui répondent aux critères. Selon le testament d'Alfred Nobel, le prix Nobel pourrait dans ce cas être réservé jusqu'à l'année suivante. Et cette loi a ensuite été mise en œuvre. Albert Einstein reçoit son prix Nobel pour 1921 un an plus tard, en 1922. Je termine l'histoire d'aujourd'hui avec la chute des murs de Berlin. Les murs de Berlin, qui étaient à l'origine une barrière séparant l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est pendant près de 28 ans, a été démoli le 9 novembre 1989. Le mur de Berlin, qui était à l'origine constitué de barbelés, a été construit pour bloquer la route vers l'Allemagne de l'Ouest. De nombreux résidents est-allemands ont ensuite fui vers l'Ouest, parce qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement communiste de l'Est. Le mur de béton a été construit le 15 août 1961, c'est pourquoi on appellera plus tard le mur de Berlin. La chute du mur de Berlin était un symbole de l'effondrement du bloc communiste et aussi de la fin de la guerre froide. Ensuite, le 9 novembre est célébré comme la journée mondiale de la liberté. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Surga itu kamu. duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra,
kita bikin
sampai
mesra.
Tubuh panas, hati,
hati dingin. Aduh, aduh, aduh.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter le ministère des Transports encourage la sécurité de la navigation dans le détroit de Malacca et de Singapour. La Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports continue de s'efforcer d'améliorer la sécurité de la navigation dans le détroit de Malacca et le détroit de Singapour afin d'assurer la sécurité du transport maritime sur cette route maritime stratégique. Ces efforts ont été réalisés par la 31e réunion du comité du Fonds d'aide de la navigation à Lombok, Nusa Tenggara Ouest, les 6 et 7 novembre 2024, qui s'inscrit dans la continuité du 30e réunion du comité du Fonds d'aide à la navigation à Labuan Bajo. La réunion a été assistée par des représentants de pays et d'institutions internationales telles que l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, ainsi que le Conseil du Malacca Strait Council, de Nippon Foundation, et Viterbi Publishing Group. Le directeur de la navigation à la Direction générale des transports maritimes du ministère des Transports, M. Budi Mantoro, qui dirigeait la délégation indonésienne mercredi, a déclaré que le comité du Fonds d'aide à la navigation, ANF, était un forum de collaboration de trois pays, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Ce forum a pour objectif sauvegarder et maintenir les aides à la navigation maritime le long des détroits de Malacca et de Singapour. En dehors de cela, le chef du district de navigation de type B de Tanjung Priok, Mugen S. Sartoto, qui a présidé la session, a souligné l'importance du rôle du fonds d'aide à la navigation dans l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies de navigation les plus fréquentées du monde. Mugen a également exprimé sa gratitude à tous les pays contributeurs pour leur engagement à maintenir la sécurité dans cette région. Le chef du district de navigation de type B de Tanjung Priok, Mugen S. Sartoto, qui a présidé la session, a souligné le rôle important du fonds d'aide à la navigation dans l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies de navigation les plus fréquentées au monde. Mugen a également exprimé sa gratitude à tous les pays contributeurs pour leur engagement à maintenir la sécurité dans cette région. L'Indonésie a également exprimé à cette occasion son engagement à continuer de soutenir le programme du Fonds d'aide à la navigation, y compris le projet de maintenance et de renouvellement des installations de navigation dans la région du Détroit. En outre, chaque délégation de pays a fourni un rapport sur la maintenance et les plans de travail pour 2025 et discuté de la performance des installations d'aide à la navigation maritime dans le cadre des séparations de trafic le long des détroits de Malacca et de Singapour en 2024. À la fin de la réunion, l'Indonésie, qui est devenue le secrétariat de ANF de 2022 jusqu'à 2024, transmettra le rôle de ce secrétariat à Singapour pour la période 2025 jusqu'à 2026. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
sendiri dalam langkah sepi. Tak pernah ku kira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di renungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, Vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voynews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel intitulé Le village touristique de Pelosok Kuning à Yogyakarta. Profitez de l'air frais des montagnes au pied du Mont Merapi dans la région de Yogyakarta peut être fait de plusieurs manières, comme par exemple à visiter le village touristique de Pelosok Kuning sur la route agrotouristique kilomètre 3,5. Le village de Bangun Kerto, le district de Turi dans la région de Sleman, Yogyakarta. Ce village touristique possède une belle zone agricole de salak, un air frais et un magnifique panorama naturel. Ce village touristique existe vers 1800 après Jésus-Christ et son nom a été inspiré par la présence d'arbres plosos autour des rizières jaunes. Par conséquent, Pelosok Kuning a été choisi comme nom du village. En tant que village touristique, le village de Pelosok Kuning possède une icône qui constitue le point final du suivi de la rivière, à savoir Kedung Kuning. Ici, les visiteurs trouveront également diverses belles falaises, notamment des falaises colorées. Outre le tourisme de nature, le village touristique de Pelosok Kuning propose également d'autres forfaits touristiques, tels que des visites de jardins de salak. Et ici, les visiteurs peuvent cueillir les fruits directement sur l'arbre. Pour les amateurs d'art de culture, il existe une éducation au gamelan. Vous pouvez apprendre et jouer des instruments de musique traditionnelle javanais, tels que le gamelan. Ici, il y a un centre de formation au batik. Ceux qui sont intéressés peuvent essayer l'art du batik. Le village touristique de Pelosok Kuning offre de belles vues naturelles. S'étendant sur les rizières, il est donc idéal pour soulager la fatigue. Il offre également une expérience qui ne s'oublie pas facilement parce que ce village touristique possède une rivière dont les eaux sont claires et propres, créant une atmosphère paisible et apaisante. En dehors de cela, l'eau claire de la rivière vous permet de profiter de la vue sur le riz de la rivière rempli de beaux rochers. Tout au long du parcours le long de la rivière, les visiteurs feront des falaises spectaculaires et colorées. Ce village touristique propose également diverses activités passionnantes, comme essayer un pont à bascule qui teste votre équilibre, profiter de l'eau fraîche d'une fontaine naturelle ou de se détendre sur un radeau d'un bambou. Dans le village touristique de Pelosok Kuning, vous pourrez également séjourner dans des logements résidentiels à des prix abordables. Ici, la maison de chaque résident peut généralement accueillir environ 3 jusqu'à 4 personnes. L'accès routier au village touristique est très bon afin que les touristes qui souhaitent le visiter puissent le trouver facilement. Actuellement, la direction du village touristique l'a complété en ajoutant des spots photos et en proposant également des plats culinaires typiques du village tels que le gudeg salak, qui est un plat incontournable, et wedang salak, une boisson typique de Pelosok Kuning, chaude et sucrée, ainsi que d'autres produits transformés en salak. Chers amis, c'était un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. rendez-vous demain. Merci et à bientôt.
Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous en Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis de quatre coins du monde, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter Tiger Watch, une innovation horlogère respectueuse de l'environnement. La jeune génération indonésienne a apporté diverses innovations pour réduire les déchets plastiques. L'un d'entre eux est l'innovation des équipes d'étudiants de l'Institut de technologie de 10 novembre, ou ITS, sur la forme de la Tiger Watch, une montre contemporaine qui utilise du plastique recyclé. Le chef de l'équipe de recherche Sinja Alfakori a déclaré que cette innovation a contribué à encourager les efforts pour réaliser les objectifs de développement durable au point 12. Ces points concernant une consommation et une production responsables. Ils utilisent du plastique inutilisé comme matière première pour fabriquer des montres. Cette innovation découle de l'existence de déchets plastiques accumulés dans le milieu environnant, notamment dans la région de Surabaya. Sinja et ses collègues recyclent le plastique polypropylène comme cadre de montre car ils sont solides, résistants aux températures élevées et capables de survivre dans des conditions humides. Le plastique polypropylène se trouve souvent dans divers emballages de marchandises. Il n'est pas donc pas difficile à trouver. La conception de la montre Chagar doit passer par 4 étapes, à savoir le moulage par injection du corps, la formation du cadran, l'assemblage et le packaging. Au stade du moulage par injection du corps, les déchets de plastique polypropylène collectés passeront par un processus de chauffage, puis seront moulés selon le design de Chagar Watch. Chagar Watch contribue positivement à l'environnement et propose des produits alternatifs respectueux de l'environnement. Cette montre a également un design tendance afin que son utilisation puisse également être utilisée en complément des besoins de la mode d'aujourd'hui. Grâce à cette innovation, l'équipe Chagar a réussi à remporter la première place au concours Le Prix d'amélioration et innovation organisé par Pertamina Energy Exploration Java au régional. Chers amis, c'est à l'orbite l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Jika aku bermimpi
dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Tembang Pahlawan, chantée par Hetikus Endang. Cette chanson créée par Budiman Bijay a été popularisée par Hetikus Endang, sortie le 1er janvier 1980. Cette chanson raconte des remords sur le champ de bataille pour créer une nation indépendante en sacrifiant leur vie. Cette chanson rappelle également aux jeunes générations de ne pas oublier les services des héros, même si elles n'attendent rien en retour. Cette chanson rappelle également à la jeune génération de poursuivre la lutte des héros. Bon, chers auditeurs, voici Hetikus Endang, dont le titre est Tembang Pahlawan. Bonne écoute!
Oh,
Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.